Maintenant, l'histoire de Naaman le lépreux, c'est dans 2, 3, chapitre 5. Naaman galope à la tête de ses troupes. Une bouffée d'orgueil le submerge. Lui, le chef de guerre du roi d'Aram, vient de vaincre le peuple d'Israël. Certains disent même que le dieu de ce peuple était à ses côtés lors des combats. Derrière lui, une petite fille toute menue, les cheveux noirs gonflés par le vent, s'accroche de toutes ses forces à son nouveau maître et regarde autour d'elle de ses grands yeux verts affolés. Aux collines de Judée couvertes d'oliviers, succède une terre aride, voilée d'un nuage de poussière. Sa famille, son pays, la douceur de son foyer ne sont plus qu'un souvenir gâché par les cris des soldats l'enlevant à ses parents désespérés. Où va-t-elle? Que va-t-elle devenir dans ce pays païen? Va-t-on lui permettre de prier le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu? Bientôt, toute la troupe ralentit, entourée d'une foule immense venue les acclamer. Tous veulent toucher Naaman, leur vainqueur, leur Dieu, mais lui se dérobe. Il est là de toutes ces batailles, de tous ces cris, de tout ce sang. Il veut rentrer chez lui, retrouver celle qu'il aime, sa femme, Zénut. Il veut lui donner cette petite captive qu'il a arrachée à la brutalité de ses soldats. Sur le seuil de sa maison, sa femme l'attend. Son délicat parfum l'enveloppe. Il la contemple émerveillée. Il oublie même son terrible souci. La petite captive se détend enfin. Sa nouvelle maîtresse est si belle, si douce. Le lendemain, alors que le jour se lève, éclairant les massifs de fleurs de toutes les couleurs, la petite esclave écoute et regarde. Le pas de Zénodie glisse sur le marbre de la terrasse. L'air résonne de mille chants d'oiseaux, du bruissement des feuilles au passage de la brise, du clapotis de l'eau des fontaines, du grondement du fleuve là-bas au loin. Tout est grâce et paix. Mais Zénodie ne voit rien, n'entend rien. Elle ne pense qu'à la détresse de son mari, à cette terrible maladie qui, si elle est connue, va le séparer de tous. Se croyant seule, elle s'écrie « Qui va guérir Naaman de sa lèpre? Qui va le sauver ?» Alors la petite captive s'avance et dit « Dans mon pays, Élisée, le grand prophète de Samarie, peut sauver mon maître. Il peut le délivrer de sa lèpre. » La foi de la petite fille est si grande que Zénodie, bouleversée, court annoncer à son mari cet espoir insensé. À cette nouvelle, Naaman relève la tête. Il croise le regard plein d'amour de sa femme. Son visage s'éclaire. Il se lève et marche vers le palais du roi. Il veut lui avouer sa terrible maladie et son espoir de trouver la guérison en Israël. Le roi l'écoute. Il est prêt à aider ce militaire prestigieux qui lui a apporté la victoire. Il n'hésite pas à écrire au roi d'Israël pour lui demander de guérir son officier. Après tout, il est sous son pouvoir. Dès le lendemain, Naaman repart avec une escorte de serviteurs et de nombreux présents. Et ce sont à nouveau des jours de voyage par une chaleur torride. Mais Naaman file sur son char, insensible aux brûlures du soleil, à la fatigue, à l'hostilité des populations. Il avance de plus en plus vite vers Israël, où il sera guéri. Jérusalem paraît enfin, resplendissante de beauté. Au palais, des gardes à la mine sombre le conduisent chez le roi. Leurs pas résonnent dans un silence pesant. Le roi l'attend inquiet. Il redoute un piège. À la lecture de la lettre, il rougit. Ses yeux lancent des éclairs. Il déchire ses vêtements et dit « Suis-je un dieu qui puisse donner la mort ou la vie pour que celui-là me demande de guérir quelqu'un de la lèpre ?» C'est alors qu'intervient Élisée. Il apprend ce qui s'est passé et fait dire au roi « Envoie-le-moi donc, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman, à ce moment-là, se souvient des paroles de la petite captive. « Mais oui, c'est lui, Élisée, le grand prophète de Samarie. C'est lui qui va le guérir. Sûrement, il sortira de sa maison à son approche. Il invoquera son Dieu. Il agitera la main sur les parties malades. Il le délivrera de sa lèpre. Et en retour, Naaman lui donnera tous ses cadeaux. » Plein d'espoir, Naaman arrive devant la maison d'Élisée. Ses serviteurs frappent à la porte. Personne ne répond. Il frappe encore et encore, rien. Au bout d'un certain temps, un messager arrive et demande à un Naaman de la part du prophète de se plonger 7 fois dans le Jourdain et sa chair redeviendra nette. Naaman tremble de fureur. Comment ce prophète ose-t-il lui dire, et en plus par l'intermédiaire d'un messager, d'aller se plonger dans ce fleuve ridicule alors qu'il en a de beaucoup plus beaux dans son pays? Furieux, il remonte sur son char et donne l'ordre de partir immédiatement. Comment a-t-il pu croire qu'un prophète d'Israël pouvait le guérir? Mais ses serviteurs le supplient de rester. Ils lui disent même, « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Alors Naaman, le grand guerrier, écoute ses serviteurs, comme il a écouté la petite captive. À l'abri des regards, il retire ses vêtements. Ses bras sont couverts de pustules. Sa peau part en lambeaux. Il ne la sent presque plus. Il plonge dans cette eau verte, légèrement visqueuse. Et soudain, il sent l'eau couler sur son corps. La vie renaît en lui. Une joie immense le submerge. Il est guéri. Naaman court remercier le prophète et lui donner tous ses cadeaux. Mais Élisée refuse. Son Dieu n'acceptera rien. Naaman, désemparé, demande alors humblement de la terre d'Israël pour pouvoir adorer dans son pays ce Dieu de vie, ce Dieu qui guérit gratuitement, le Dieu d'Israël et aucun autre Dieu. Mais il est inquiet car une fois revenu dans son pays, il devra accompagner son maître au temple, il devra tenir son manteau pendant qu'il se prosternera devant les idoles. Mais Élisée le rassure, « Va en paix. » Naaman repart profondément heureux. Mais Géasi, le serviteur d'Élisée, mécontent que son maître n'ait rien accepté de ce riche guerrier, part à sa poursuite. En le voyant, Naaman s'arrête, descend de son char et lui demande « Que veux-tu, Géasi ?» Le serviteur répond « 2 frères prophètes viennent d'arriver et nous n'avons rien à leur donner. Aurais-tu 1 talent d'argent et 2 habits de fête ?» Naaman, tout content de donner des cadeaux au prophète, lui donne le double et en plus 2 sacs remplis de présents. Géasi s'empresse de porter tout cela chez lui et revient près de son maître. « Où étais-tu, Géasi ?» demande Élisée. « Ton serviteur n'est allé nulle part, » répondit-il. « Comment ?» dit Élisée. « Mon cœur n'était-il pas près de toi quand tu as demandé des cadeaux à Naaman ? Eh bien, à quoi va-t-il te servir d'être riche et puissant, puisque la lettre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours ?» Et Géasi repart, blanc de lèpre, comme neige.